Décryptage. Aurélien Devernois.
Il allait fêter le 30 juin prochain les 30 ans de son accession au pouvoir, mais l'histoire s'est arrêtée pour Omar el-Béchir. Le président soudanais a été déposé par l'armée et placé en détention ce matin. L'annonce a tout d'abord suscité la joie parmi les dizaines de milliers de manifestants qui chaque jour depuis samedi se rassemblent devant le siège de l'armée pour appeler à la chute du régime. Mais ce régime a-t-il vraiment chuté? Les contestataires, mobilisés depuis 4 mois, vont-ils accepter le conseil militaire de transition nommé pour les 2 prochaines années, alors que le pays a été de nouveau placé en état d'urgence? Ce sont les questions que nous nous posons ce soir dans Décryptage. Bonsoir à toutes et à tous. Et en studio avec nous ce jeudi soir, Clément Des, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'Université Paris 8, spécialiste du Soudan et membre du think tank Noria Research. Et Alexandra Branjon, journaliste au service Afrique de RFI. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir.
Vous suivez de près ce mouvement de contestation populaire au Soudan depuis décembre dernier. Alors, on va commencer par parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Un conseil militaire de transition a donc été créé et doit présider aux destinées du pays pour 2 ans. Alexandra, pouvez-vous tout d'abord nous résumer ce qu'il s'est passé depuis ce matin?
Alors ça a commencé très tôt, hein, puisque vers 5h, heure locale, la télévision d'État a annoncé que l'armée allait faire une déclaration importante. Aussitôt ont commencé les rumeurs sur une démission possible d'Omar el-Béchir. Sans avoir de confirmation, on apprend peu à peu que des discussions sont en cours entre l'armée, la police, les services de renseignement pour la formation d'un gouvernement de transition. Faudra attendre le début d'après-midi vers 13h pour en avoir la confirmation. Le ministre de la Défense prend la parole, annonce la destitution d'Omar el-Béchir, son arrestation, la formation d'un conseil militaire qui sera chargé d'assurer l'intérim pendant 2 ans. Il annonce également une période transitoire avec des élections organisées dans 2 ans. Voilà, également un état d'urgence pour 3 mois, un couvre-feu à partir de 22h et les frontières qui vont être fermées. Voilà ce qu'on sait pour l'instant, formation donc d'un conseil militaire mais dont on n'a pas encore les détails.
Alors on va en parler justement, Clément Des. Tout s'est un petit peu accéléré, on pouvait s'attendre à une issue comme celle-là, même si, comme Alexandra vient de l'expliquer, ça reste encore un petit peu flou dans les contours.
Alors c'est très très flou, évidemment, mais on commençait à voir se dessiner ce type d'intervention de l'armée. On ne savait pas quel type d'intervention, parce que les plus grosses rumeurs ces derniers jours parlaient d'une intervention, d'un coup d'état de jeunes officiers qui semblaient se dessiner depuis plusieurs jours. Finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est en fait des proches du régime, donc le premier vice-président de la République et ministre de la Défense, qui par ailleurs est aussi poursuivi, qui est sur la liste des sanctions américaines pour les crimes au Darfour, qui a fait un coup d'état interne qui ressemble quand même beaucoup plus à une scène de théâtre que à un réel coup d'état.
Oui, c'est finalement un remplacement, mais pas une révolution.
On prend un peu les mêmes et on recommence, hein, si je peux me permettre. Il n'y a pas vraiment de remplacement, parce que pour l'instant, on sait que Omar el-Béchir et un certain nombre de gens du NCP, donc le NCP, le National Congress Party, qui est le parti au pouvoir, ont été arrêtés. On ne sait pas vraiment dans quelles conditions. On ne sait pas s'ils sont vraiment aux arrêts ou si tout ça est de la poudre aux yeux. Et donc, on n'a pour l'instant pas grand chose concret, par ce conseil de transition. Parce que il n'y a pas eu d'annonce de dissolution des services de sécurité qui sont haïs par la population. On sait que, a priori, Salah Gauche, qui est le chef de ces services de sécurité, fait partie du coup. Il n'est pas sur la liste des personnes arrêtées. Il est apparemment en soutien. Donc, on est plutôt sur une reconfiguration des services de sécurité et de l'armée et de gens qui essayent de sauver les meubles tant qu'ils le peuvent encore.
D'où l'euphorie, hein, qui est très rapidement retombée parmi les manifestants à Khartoum. Et d'ailleurs, Alexandra, vous avez eu au téléphone aujourd'hui plusieurs contestataires pour qui le sentiment qui prédomine désormais, c'est plutôt la méfiance.
Oui, tout à fait, hein. L'association des professionnels soudanais, qui est le principal organisateur de cette contestation, a rejeté l'annonce. En début d'après-midi, on avait et d'ailleurs dans nos studios le porte-parole en France de cette organisation, et sa réaction a été tout ça pour ça. Ce que dit l'organisation, c'est que eux voulaient un gouvernement de transition. Ils avaient d'ailleurs appelé l'armée à discuter. Certes, ils s'attendaient à un gouvernement composé de militaires, mais là, il s'agit vraiment d'un conseil uniquement composé de militaires, sans consultation avec la société civile, ni avec les partis d'opposition. De plus, comme le disait notre invité, on ne connaît pas la composition de ce conseil. Va-t-il y avoir des anciens durs du régime qui vont en faire partie? Parmi les manifestants, même sentiment, hein, j'ai discuté avec plusieurs d'entre eux tout à l'heure par téléphone. L'un d'entre eux qui campe d'ailleurs sur la place devant le siège de l'armée depuis 4 jours, disait « Nous ne quitterons pas cette place, ce n'est pas ce que nous voulions, ce n'est pas ça la démocratie ». Donc ça va être intéressant de voir d'ailleurs ce soir si ces manifestants continuent d'occuper cette place, sachant qu'il y a un couvre-feu qui a été instauré à partir de 22h.
Alors, vous parliez du porte-parole de l'Association des professionnels du Soudan. Il est intervenu plusieurs fois à l'antenne de RFI. Il était notamment avec nous hier également, donc Rachid Saïd Yacoub, qui nous disait ceci.
Un coup d'État n'est pas une réponse à cette crise. Un coup d'État risque de compliquer la crise. Et il faut que l'armée discute avec les forces de la révolution pour essayer de s'entendre sur une période de transition. On a proposé 4 ans de transition pour redresser l'économie, pour arrêter la guerre, reconstruire le pays avant d'organiser une élection démocratique.
Clément Audet, vous pensez que les personnes qui ont pris le pouvoir, alors encore une fois, c'est flou, mais les personnes qui sont, en tout cas, qui se réclament d'avoir pris le pouvoir au Soudan, sont en mesure ou sont disposées à écouter les revendications des manifestants? Est-ce que ça fait partie de la culture politique du Soudan, ou en tout cas de ses dirigeants soudanais?
Pour la culture politique soudanaise, oui. Discuter avec tout le monde tout le temps, ça fait partie. Il y a eu des négociations un peu tout le temps entre l'opposition et le régime depuis maintenant une quinzaine d'années. Mais là, aujourd'hui, les gens qui ont pris le pouvoir, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce sont plutôt des durs. Ce sont des gens qui ont mis en place une grande partie de la politique au Darfour, qui ont armé les Janjaweeds, etc. Donc ce sont des gens qui ont beaucoup de sang sur les mains, qui sont vraiment des durs du régime et de la guerre au Darfour. Et eux, ce sont pas des gens qui ont pour habitude de discuter. Et d'ailleurs, l'annonce a été l'annonce de l'association de Ibn Aouf, donc le
ministre
premier
de la Défense,
vice-président, est très révélatrice. C'est-à-dire qu'elle ressemble énormément à la déclaration du coup d'État de 1989, en disant on arrive pour sauver le pays. On va mettre en place un conseil militaire, mais par contre, on ne discutera pas avec les autres forces. Les autres forces n'existent pas au Soudan, c'est nous la force. Et il y a quelque chose de très fort là-dessus dans cette déclaration. D'ailleurs, les premiers mots sont les mêmes que dans la déclaration du coup d'État de 1989.
Alors donc, Alexandra, allez-y.
Oui, juste pour rebondir, ce qui va être intéressant, c'est dans la composition de ce conseil, donc on parle des durs de durs, il y a des noms qui reviennent, donc Salagosh, le chef des services de renseignement, il y a également celui des chefs des Janjaweed, donc ces milices qui ont œuvré au Darfour. Ce qu'il faut savoir, c'est dans ceux qui contestent, parmi les contestataires, il y a d'anciens, ou il y a des mouvements armés du Darfour qui ont signé avec les organisateurs des manifestations et qui se sont ralliés à leur cause. Ces gens-là, ces mouvements du Darfour ne vont pas accepter un conseil de transition, un conseil militaire dans lequel il y a des Janjaweeds, ces milices qui les ont combattus au Darfour.
D'autant plus qu'ils s'étaient engagés, quand ils avaient signé, je crois que ça s'était passé à Paris, à être pacifiques, c'est-à-dire à vraiment à soutenir le mouvement de la manière la plus pacifique possible.
Oui, sur ça, la déclaration du changement et de la liberté de l'association des professionnels est très claire. Je crois que c'est un des premiers points, c'est l'arrêt de la guerre au Darfour et dans les monts Nouba et au Nil Bleu, donc les 3 zones de guerre civile actuelles au Soudan. Et c'est une des premières revendications, y compris de l'opposition civile de l'association des professionnels et des groupes armés qui soutiennent maintenant aujourd'hui l'association des professionnels, donc à l'exception du SPLM Nord, qui est un des groupes armés, qui eux ne soutiennent pas encore l'association des professionnels, mais pour d'autres raisons.
Vous parliez du coup d'État qui avait porté au pouvoir Omar El-Béchir en 1989. Il y avait eu auparavant 2 révoltes populaires qui avaient marché au Soudan en 1964 et en 1985, qui avait marché, on va dire, sur un temps relativement limité, mais qui, en tout cas, sur l'issue de ce mouvement en tant que tel, avait fonctionné. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, la société civile, les associations qui sont impliquées, les groupes qui existent et qui font partie de cette coalition, ont les moyens de faire plier ce régime, on l'a compris, à vocation très militaire?
Je pense que là, ça se joue plus sur la rue, donc le nombre de personnes qu'il y aura cette nuit dans la rue, comme ça a été dit un peu plus tôt, parce que c'est vraiment ça l'enjeu. Il y a un couvre-feu aujourd'hui. Les gens ont commencé à redescendre dans la rue là cet après-midi après l'annonce des militaires, et pour dire on n'accepte pas cette décision. Donc au moment du couvre-feu, les gens vont continuer probablement à être dans la rue. Comment l'armée va réagir? Comment une partie des officiers, des petits officiers et de la troupe va réagir si on leur ordonne de tirer sur la foule? C'est là où ça va se passer. L'association des professionnels, la société civile a été quand même très très affaiblie par les 30 ans de dictature. Ils n'ont pas des moyens structurels pour protéger la foule ou pour peser à ce niveau-là. Ils peuvent faire des appels, mais c'est à la population après de réagir. Et on a vu quand même qu'il y a Khartoum, il y a aussi la province, il y a beaucoup de bâtiments des services de sécurité, donc à Zalindje,
à Kassala, oui.
Et plusieurs au Darfour, à Kassala, donc, qui ont été attaqués, brûlés. Et donc il n'y a pas que Khartoum, il y a aussi les villes de province qui sont en train de réagir à ces déclarations.
Et là, pour revenir sur l'attitude de l'armée, il y a aussi ce décalage évoqué entre les petits officiers et les hauts gradés, hein, parce qu'on a vu ces derniers jours des soldats qui fraternisaient avec les manifestants. D'ailleurs, cet après-midi, même bon après, il faut les confirmer, mais il y avait des vidéos de soldats qui chantaient avec les manifestants. On veut pas de ce nouveau régime. Donc là aussi, il va falloir voir ce décalage entre les petits, enfin entre les soldats et leurs et leur commandant.
Et sur ça, il vient d'avoir une liste qui a été diffusée par des militaires à l'intérieur en nommant les généraux qui avaient appelé ces derniers jours à tirer sur la foule. Et donc, c'est des officiers qui ont désobéi ces derniers jours, qui font diffuser en ce moment une liste en disant ces généraux-là ont ordonné et ce sont eux qui sont en train de former le conseil de transition. Et donc, attention à vous, la foule. Nous, on n'est pas forcément d'accord avec ce qui est en train de se passer. Donc, il y a des tensions internes dans l'armée en ce moment.
Et au niveau des partis politiques soudanais, est-ce que ces partis, alors qu'ils sont plus ou moins impliqués avec le pouvoir, qui ont plus ou moins d'indépendance, est-ce qu'ils peuvent avoir leur mot à dire? Tout à l'heure, le vice-président du parti Ouma a fait une déclaration, en tout cas c'était juste avant l'officialisation du départ, en tout cas de l'arrestation d'Omar El-Béchir. Je vous propose de l'écouter.
On est en train de vivre l'une des périodes les plus délicates et dangereuses de l'histoire du Soudan, la chute d'un régime qui était au pouvoir depuis plus de 30 ans et qui a détruit tous les aspects de la vie sociale et politique du pays. Ce qui s'est passé est un coup d'État dirigé par le haut commandement de l'armée, par un comité composé de hauts et de moyens gradés de l'armée. Cette initiative a permis d'éviter une scission au sein des forces militaires. Maintenant, l'armée est unie, elle est aux côtés des citoyens.
Alors on peut comprendre un petit peu comment on veut, hein, cette déclaration. Le renversement de Omar El-Béchir a permis de réunir l'armée, mais l'armée est-elle réellement aux côtés de la population? On peut avoir des doutes là-dessus quand même. Et du coup, des doutes sur l'implication du parti politique Ouma, sur sa prise de position par rapport à ce changement.
D'abord, le parti politique Ouma, depuis le début de la contestation, est complètement à la traîne. Les premières déclarations de Sadiq El-Mahdi, qui est donc le dirigeant, le président de ce parti politique, a été sa première déclaration était de dire qu'il ne fallait pas attaquer des symboles du régime, il fallait être pacifiste, etc. Ce qui avait été très mal reçu par la rue. Il avait appelé tout le monde au calme, en fait. Et ensuite, il a eu une position, ce parti un peu compliqué, parce qu'il a essayé de se poser en tant que lien entre certains partis islamistes et le reste de l'opposition. Ce qui a été assez mal pris à nouveau par la rue, donc on peut pas prendre, je pense, le parti Ouma comme un exemple actuellement, parce qu'il est assez peu suivi par les manifestants. Mais d'autres partis politiques ont aussi réagi, hein, évidemment. Le Soudan Congress Party, qui est un parti en pleine ascension, et le Parti communiste soudanais, qui est un parti qui a eu une heure de gloire forte dans les années 60-70 et qui est depuis beaucoup plus faible, et qui ont dénoncé cette transition de l'armée. Alors évidemment, avant, tout le monde faisait appel à l'armée en disant « on a besoin de vous pour nous protéger », mais le type de coup d'État qui est en train de se passer au Soudan n'est pas le type de coup d'État que souhaitait l'opposition. L'opposition voulait une transition démocratique.
Alors il y a eu des réactions aussi à l'extérieur du Soudan, Alexandra. L'Égypte notamment a réagi. Alors l'Égypte a dit qu'elle soutenait finalement ce changement à la tête du pays, avec une certaine forme de logique, puisque Abdel Fattah al-Sissi est arrivé au pouvoir à peu près dans les mêmes circonstances.
Oui, sur l'Égypte. Bon, l'Égypte en plus soutient l'armée. Enfin, il y a des liens avec l'armée soudanaise historique. Donc voilà, on sait que les Égyptiens soutenaient une prise de pouvoir potentielle par Salah Gauche. Finalement, c'est pas ce qui a été fait. Mais on sait qu'en sous-main, ils ont poussé vers une solution sécuritaire, comme ce qui s'est passé chez eux. De toute façon, ils ne veulent pas un nouveau printemps arabe. Ils n'ont pas envie qu'il y ait une forme de contagion. Et là, il y a quand même l'Algérie et le Soudan en ce moment. Ça leur plaît pas beaucoup, et donc la solution de soutenir l'armée, un coup d'État interne pour calmer la situation, paraissait bienvenue pour les Égyptiens, mais pas que pour les Égyptiens d'ailleurs. On sait qu'il y a eu des contacts avec certains militaires et les États-Unis depuis plusieurs semaines, c'est aussi la voie qui est privilégiée par un certain nombre de pays occidentaux dans la région, parce que ça permet de maintenir une forme de stabilité un peu illusoire, parce que de fait c'est cette armée qui est aussi responsable des guerres civiles, mais c'est comme ça que c'est pensé probablement dans certaines chancelleries.
C'est la solution la plus simple.
Voilà, et potentiellement la moins risquée, alors que sur un long terme c'est probablement la plus risquée, parce que ça va, si on a cette dynamique là, ça va probablement réactiver les conflits civils un peu partout au Soudan, parce que la transition pacifique par la rue ne peut pas marcher, donc il ne restera pas grand chose d'autre que la rébellion.
Est-ce qu'on peut encore, malgré tout, espérer entendre cette voix de la rue ? Est-ce que tous ces jeunes gens qui se sont mobilisés ces derniers mois, ces jeunes filles notamment, hein, parce que il y a l'égérie du mouvement qui s'appelle Alaa Salaah, a fait plusieurs déclarations aujourd'hui en disant « ça y est, quand même, on a réussi quelque chose ». Est-ce que vous craignez qu'une chape de plomb ne retombe sur tous ces espoirs, sur toute cette mobilisation qui avait fait espérer à cette jeunesse soudanaise et ben peut-être un autre avenir?
Je pense qu'on le verra ce soir, hein, ça va être le premier test à 22h quand il y aura le couvre-feu. Est-ce qu'il y a encore des gens dans la rue? Est-ce qu'ils vont rester toute la nuit? Et surtout, comment va réagir l'armée? Je crois que ça va être une première indication. Maintenant, il faut quand même voir, cette mobilisation dans la rue a été importante. Ça fait quand même 4 mois qu'ils sont dans la rue. Ils ont continué à manifester, même après l'annonce de l'état d'urgence, alors qu'il y avait une répression quand même assez sévère. Il y avait de nombreuses arrestations, beaucoup de violence. Donc vraiment, tout va se jouer, je pense, dans les prochains jours. Comment réagissent les manifestants et comment réagit l'armée? Ça va être déterminant.
Et aussi, juste pour compléter, je suis complètement d'accord, et les Rapid Support Forces, qui sont les miliciens de Janjaweed, donc des anciens miliciens du Darfour,
du colonel Emeti,
qui sont aujourd'hui dans Khartoum, qui sont déployés dans Khartoum, et qui sont, on parle de 30 000 hommes en armes, hein, c'est une milice qui est vraiment très importante, donc aussi, eux, comment ils vont réagir, de quel côté ils vont se placer, ça va aussi être important.
Très rapidement, Clément Dehé, parlons vraiment en 30 secondes de Omar El-Béchir. Quel avenir potentiel pour lui, un exil à l'Aïssen Abré ou à la Moubarak, hein, c'est pas les mêmes régions, la prison, la résidence surveillée
Aujourd'hui, Omar El-Béchir, si c'est bien ces personnes-là qui gardent le pouvoir, il ne risque pas grand-chose. Il sera probablement en résidence surveillée, où on lui trouvera
un poste honorifique,
quelque chose où au pire il ira en Arabie Saoudite dans une grande villa. Mais ça dépend de ce qui va se passer dans les prochains jours.
Merci à tous les deux, merci Clément Dé, chercheur donc à Paris 8 et membre du think tank Noria Research.
Merci.
Merci à Alexandra Branjon du service Afrique de RFI, on vous retrouvera de toute façon tout au long de la soirée, on a des éditions spéciales qui arrivent. Et merci à Eleonore Krenik qui a préparé cette émission, réalisation signée Hélène Avril. Restez avec nous sur RFI dans un instant les infos et dans deux heures donc une édition spéciale consacrée à la situation au Soudan avec Zéphirin Quadio et ses invités.